Ne pas faire de la passion un argument pour la vérité. Ô fanatique d'un bon naturel, fanatique noble même, je vous connais. Vous voulez garder raison devant nous, mais aussi et avant tout devant vous-même. Et une mauvaise conscience subtile et irritable vous pousse souvent justement contre votre fanatisme. Comme vous êtes alors plein d'esprit pour duper et pour endormir cette conscience. Combien vous haïssez les gens honnêtes, simples et propres, comme vous évitez leurs yeux innocents. Cette certitude contraire dont ils sont les représentants et dont vous entendez en vous-même la voix qu'ils doutent de votre croyance, comme vous cherchez à la rendre suspecte, sous le nom de mauvaise conscience, de maladie du temps, de négligence dans les soins de votre propre santé. Vous allez jusqu'à la haine de la critique, de la science, de la raison. Il vous faut falsifier l'histoire pour qu'elle témoigne en votre faveur. Il vous faut nier les vertus pour qu'elles ne mettent pas dans l'ombre les vertus de vos idoles et de votre idéal. Des images coloriées là où il faudrait les raisons de la raison. L'ardeur et la puissance de l'expression, du brouillard argenté, des nuits ambrosiaques. Vous vous entendez à illuminer et à obscurcir avec de la lumière. Et en vérité, si votre passion se met en fureur, il vient un moment où vous vous dites « Maintenant je me suis conquis la bonne conscience. Maintenant je suis magnanime, courageux, désintéressé, grandiose. Maintenant je suis honnête. » Combien vous êtes avide de ces moments où votre passion vous confère un droit plein et absolu devant vous-même, vous donne en quelque sorte l'innocence de ces moments où, dans la lutte, l'ivresse, le courage, l'espoir, vous êtes en dehors de vous-même et au-dessus de tous les doutes, où vous décrétez « Celui qui, comme vous, n'est pas en dehors de lui-même, ne peut pas savoir du tout ce qu'est la vérité, où est la vérité. » Combien vous êtes avide de trouver les hommes de votre croyance qui sont dans cet état, c'est celui de la dépravation de l'intellect, et d'attiser votre feu à leur incendie. Malheur à votre martyr. Malheur à votre victoire du mensonge sanctifié. Faut-il que vous vous fassiez tant de mal à vous-même? Faut-il? Comme on fait maintenant de la philosophie. Je remarque que nos jeunes gens, nos artistes et nos femmes qui veulent philosopher, demandent maintenant à la philosophie de lui donner le contraire de ce que recevaient les Grecs. Celui qui n'entend pas la jubilation continuelle qui traverse chaque propos et chaque réplique d'un dialogue de Platon, la jubilation à cause de l'invention nouvelle de la pensée raisonnable? Que comprendra-t-il à Platon? Quoi à la philosophie ancienne? En ce temps-là, les âmes s'emplissaient d'allégresse lorsqu'on se livrait au jeu sévère et sobre des idées, des généralisations, des réfutations. Avec cette allégresse qu'on peut être connu aussi ces grands et sévères et sobres contrepointistes de la musique. En ce temps-là, en Grèce, on avait encore sur la langue cet autre goût plus ancien et autrefois tout puissant. Et à côté de ce goût, le goût nouveau apparaissait avec tant de charme que l'on se mettait à chanter et à balbutier comme si l'on était en ivresse d'amour. À chanter la dialectique, l'art divin. Le goût ancien, c'était la pensée sous l'empire des mœurs, pour laquelle n'existaient que des jugements fixes, des faits déterminés et point d'autre raison que celle de l'autorité. En sorte que, penser ce n'était que répéter, et que toute jouissance du discours et du dialogue ne pouvait reposer que dans la forme. Partout où le fond est considéré comme éternel et vrai dans sa généralité, il n'y a qu'une seule grande magie, celle de la forme qui change, c'est-à-dire de la mode. Chez les poètes aussi, depuis l'époque d'Homère et plus tard chez les plastiques, les Grecs ne goûtaient pas l'originalité mais l'opposé de celle-ci. Ce fut Socrate qui découvrit la magie contraire, celle de la cause et de l'effet, de la raison et de la conséquence. Et nous autres, hommes modernes, nous sommes tellement habitués à la nécessité de la logique et élevés dans l'idée de cette nécessité qu'elle se présente à tous comme le goût normal et que comme tel il faut qu'elle répugne aux gens ardents et présomptueux. Ce qui se différencie du goût normal les ravit. Leur ambition plus subtile s'efforce de croire que leur âme est exceptionnelle, qu'ils ne sont point des êtres dialectiques et raisonnables mais, par exemple, des êtres intuitifs, doués d'un sens intérieur ou d'une contemplation intellectuelle. Mais avant tout, ils veulent être des natures artistiques, avec un génie dans la tête et un démon dans le corps, et possédant par conséquent aussi des droits exceptionnels pour ce monde et pour l'autre, et surtout le privilège divin d'être incompréhensible. Et cela se met à faire de la philosophie. Je crains qu'ils ne s'aperçoivent un jour qu'ils se sont trompés. Ce qu'ils veulent, c'est une religion.